Bonjour et bienvenue à Faut lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Alors, je fais une intro, j'ai arrêté d'en faire systématiquement. Parfois, ça me déplaisait un peu, je trouvais ça lourd un peu d'en faire pour plein de raisons. Mais pour cet épisode-ci, je tenais à en faire une parce que l'épisode devrait être publié avant la sortie en salle de l'adaptation cinématographique du livre dont il est question, donc « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah. L'épisode aujourd'hui là, va porter sur cette œuvre et il sera présenté avec Suzanne. Donc, la première du film adapté du livre est mercredi prochain, le 10 septembre 2025. Donc, l'épisode devrait sortir avant ça. Si vous avez la chance de l'écouter avant la sortie du film, eh bien, garochez-vous au cinéma, encouragez les artistes locaux. Ce sera adapté par... En fait, il a été réalisé par Philippe Falardeau. Et sinon, je pense que je peux me méprendre, mais si ma mémoire est bonne, la sortie en salle officielle sera le 19 septembre, donc quelques jours plus tard, et vous aurez la chance aussi d'aller voir à ce moment-là si vous n'avez pas pu être au festival. Donc, voilà, tout simplement, j'en dis pas plus sur l'épisode. L'épisode est autoportant. Et sur ce, amusez-vous, bon épisode.
Salut!
On se retrouve!
Enfin!
Le 20e épisode, mais
déjà?
Le 18e à sortir, parce que là, on en a maintenant deux qui sont non publiables.
Ah oui, lesquels ont?
Le premier, c'était pas avec toi. C'était
okay, avec, okay, c'était okay, avec
Kendo. Non,
okay.
C'est ça, mais le deuxième qui était l'épisode perdu.
Est-ce qu'il est enregistré quelque part? Ça veut dire que quelqu'un pourrait le retrouver éventuellement?
L'épisode perdu?
Oui.
Oui. Puis je me suis dit que peut-être je vais le réécouter, parce que je ne l'ai pas encore réécouté, parce que, bon...
Ouais, à ma retraite.
Oui, mais ou que je te proposerai une version hautement éditée, tu sais, puis peut-être que ça sera publiable, on verra.
À suivre.
Je te ferai écouter, mais ça va être... peut-être qu'il va rester 15 minutes d'écouter sur une heure d'enregistrement. Fait que cette semaine, « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah. Publié en 2021. Tout récent, mon Dieu. Ben, tout récent. Ben, pas le plus récent qu'on a fait, mais quand même, tout récent. Chez Quartanier.
Oui, Le Quartanier.
Puis Echo. Mais moi, j'ai Echo aussi, mais là, j'étais plus trop sûr. Mais je pense que c'est vraiment juste Le Quartanier.
La version
sous,
poche.
Ah, OK, c'est
la version de poche.
Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, on n'a pas la même version cette année. Toi, c'était-tu au moment de la publication que tu l'avais acheté?
Oui.
Est-ce que tu suivais Alain Farah depuis un certain
ben,
temps?
J'avais lu Pourquoi Bologne?
Qui est référé aussi.
Oui, oui. Puis déjà, ceux qui l'avaient déjà lu dans mon entourage avaient adoré ça, donc je l'ai acheté et je l'ai dévoré une fois.
Pourquoi Bologne ou Mille secrets, mille dangers?
Mille secrets, okay. Mille dangers. Je l'ai dévoré après ça une deuxième fois pour le prix littéraire des collégiens.
Ah. Est-ce qu'il a gagné?
Mais ça a donné lieu à des super belles discussions avec les étudiants. Quand même, faire lire des 500 pages comme c'est, ça, des jeunes du cégep, là, c'est super. Tout puis après ça, ben, la troisième fois pour aujourd'hui.
Ça se lit bien, par contre.
Ah oui.
Faut vraiment dire que...
Beaucoup d'oralité,
ouais.
De dialogue, de rythme.
Ben, c'est... On moi, en tout cas, c'est un peu... Ben, on y viendra, mais pour moi, ce livre-là, c'est un peu un délire fiévreux, là, dans le sens où... c'est comme...
Ouais. Ça passe à travers tous les styles de narration.
Puis, exactement, ouais. On passe du jeu à la troisième personne, en ouais. fait. Avec aussi, c'est ça, des moments très, très intérieurs, dans l'intériorité, et sinon des dialogues vraiment, vraiment endiablés entre des personnages où on sort complètement, finalement, de cette intériorité-là. Là. Donc, c'est vraiment...
Est-ce que tu as trouvé ça difficile?
Non, parce que j'ai trouvé que... Non, parce que j'ai trouvé vraiment qu'il y avait... quelque chose de pas addictif. J'allais dire addictif, je trouve peut-être un peu exagéré, mais vraiment, c'est un bon vieux page turner.
Oui, c'est super bien fait pour aussi initier les jeunes à la narration.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec un narrateur et un point de vue narratif? Là?
Puis c'est aussi en termes de temporalité et de chronologie. Là,
tout se passe le jour. Ben, là, tu fais un petit résumé comme d'habitude?
Mais oui, c'est ça. C'est là que j'allais aller, mais oui.
Sans trop en dire.
Ah, ben non. Les gens qui écoutent le podcast sont censés avoir lu l'œuvre.
Ah, d'accord.
Ou ils n'ont pas envie de la lire, puis ils vont écouter mon résumé pour tout se spoiler. divulgâcher pour être bien radio-canadien. Oui, effectivement, livre qui se passe, en une journée, c'est pas tout à fait vrai parce que l'action principale se déroule le jour du mariage d'Alain Farah, ou en tout cas une journée fantasmée peut-être de son jour de mariage qui devait, je l'espère, être pas exactement ça. Là, mais,
C'est une autofiction. Donc il y a autant de l'autobiographie que de la fiction.
Voilà.
Il y a les deux.
Exact. Et c'est ça, en le lisant, il y a des bouts que j'espère qui sont de la fiction pour lui, là, comme pour là, en lui souhaitant de ne pas avoir vécu toutes les choses qu'il a vécues. Mais je ne le connais pas bien personnellement, là, donc je ne pouvais pas décoder nécessairement tout ce qui était à lui ou non. Mais tout ça pour dire que donc, l'histoire se déroule le jour de son mariage et la nuit avant jusqu'à, disons, la nuit suivante, qui est durant le party des...
la nuit de noces.
La nuit de noces, merci. Et avec, finalement, des passages d'autres moments de sa vie qui viennent un peu teinter l'histoire. Puis c'est là où je m'en allais un peu quand je parlais de la temporalité. C'est que finalement, c'est une œuvre aussi qui questionne peut-être le rapport au temps. Puis comme quoi, le présent est toujours... En fait, le passé est toujours... présent dans le présent, mais qu'on est ce qu'on a été autrefois. C'est peut-être ça un peu
c'est pratiquement quantique.
Effectivement, mais le futur n'est pas là, par contre.
Tout est...
Ouais.
Ben oui, le futur est là.
Dans le livre?
Ben oui, avec le décès de Mir, avec...
C'est vrai.
Oui. On est... il y a des retours dans le passé. De Mime. Ouais. J'ai mélangé les deux. Avec justement les retours dans le passé, mais aussi le...
Tout à fait.
Ouais.
Bon, fait que peut-être là, on résume quand même l'histoire, la journée du mariage, dans le fond, je vais y aller chronologiquement, mais c'est pas comme ça que c'est raconté dans le livre, là, mais essentiellement, les premiers passages qui nous sont racontés, c'est la nuit lorsque Alain essaye de s'endormir la nuit avant son mariage. En fait, il ne s'endort pas, il nous raconte tout son protocole d'endormissement là,
As-tu déjà essayé son protocole?
Moi, je dors. Moi, en fait, mon problème, c'est pas de m'endormir, c'est généralement de faire une longue... En fait, c'est de dormir le matin, principalement. Là. Moi, passer 5-6 heures, il n'y a aucune chance que je me rendorme, mais m'endormir, c'est jamais un problème. Fait que je vis pas ce qu'il vit. Toi, t'es-tu une insomniaque?
Ça m'était jamais arrivé, mais... Avec la pandémie, j'ai eu, comme beaucoup de personnes, à cause de l'anxiété. Là.
C'est
le seul moment où j'ai vécu ça. Là. Ouais. Puis là, c'est drôle parce que c'est en 2021 que ce livre-là. Et puis j'ai essayé son protocole, le bain, la lecture.
Mais c'est pas l'étirement musculaire, la lecture. Ouais, il lit la Bible, ensuite le bain.
Il y a plein de choses, la lecture, le
Star
bain.
Star Wars et d'autres films.
Mais c'est spécial pour arriver à s'endormir. T'es-tu rendu
jusqu'aux Xanax?
Non. Continue le résumé.
Donc, c'est ça. Donc, il essaie de s'endormir, il fait son protocole qu'on vient de décrire, se rend jusqu'à ouvrir son cabinet de pharmacie là, dans sa salle de bain, puis retombe finalement dans ses vieux démons de consommation de calmants. Et donc, se craint que quelques examens... En fait, je pense qu'il en prend un ou deux, mais il se fait un horaire parce qu'il se dit, le jour de mon mariage, l'anxiété va être au comble. Et donc, il sait que s'il commence le Xanax avec les effets rebonds là, de l'anxiété, parce que c'est souvent ça, là, les benzodiazépines, cette classe-là de médicaments, c'est que ça calme pendant 2-3 heures, puis après ça, le pic d'anxiété est encore pire que le moment précédent. Donc, il sait qu'il va devoir les étaler pendant toute la journée s'il commence cette nuit-là.
Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que là, toi, le médecin, et moi, la prof de littérature, qui se rencontrent autour de cette œuvre-là, je trouve ça vraiment le fun.
Il va falloir qu'on parle aussi de cette vision de la médecine puis de la pharmacie, pas de la pharmacie, mais de la pharmacothérapie, mm-hmm. peut-être, qui est très nuancée entre le bien et le mal, mais entre les méfaits puis les bienfaits. Là,
ça, c'est ta section, puis moi, je vais parler de narration. C'est parfait.
OK, bon. Mais non, mais je m'intéresse au thème, mais après ça, vraiment, lorsqu'il s'agit de technicalité, c'est sûr que...
Moi, je m'intéresse à la médecine, autant que tu peux t'intéresser à la littérature.
Exactement.
C'est cool.
Bon, mon Dieu, là, ça va être la plus longue. C'est ça. Mais en même temps, c'est un livre de 500 pages qui se passe en 24 heures, fait que vous comprendrez qu'il y a du détail en masse, là, et donc c'est pour ça qu'on n'avance pas très vite. Là.
Et que c'est très bon, faut le lire.
Oui. Il y a eu quand même des critiques aussi négatives hein, que j'ai vues.
Ah oui, non, moi je ne les lis pas.
Tout ça pour dire, donc, il finit par se craquer quelques Xanax, réussit à s'endormir, et puis voilà. Puis donc, se réveille le lendemain matin, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il partait faire, mais il sort de chez lui pour une raison que j'ignore, mais il revient de chez lui, glisse sur un carton de pizza ou quelque chose comme ça, qui avait été un carton d'alimentation qui avait été lancé par un de ses voisins, par deux de ses voisins, en fait, avec qui il est en conflit, et se fracasse une dent sur... je sais plus sur quoi, mais il se fracasse une dent. Et là, c'est un peu déjà sa journée qui de mariage. Là. C'est le jour de son mariage qui part un peu en vrille. Je pense qu'il est allé chercher son complet, peut-être, là, mais... Ou il l'avait peut-être déjà, c'est pas grave. Et là, doit rapidement aller se faire réparer sa dent chez son dentiste, qui est égyptien d'origine, immigrant de première génération. Mais je dis ça parce que c'est pas important, mais en théorie, ce serait pas important, mais dans le livre, ça l'est parce qu'il y a une longue diatribe de son médecin sur...
De son dentiste.
Sur les méchants immigrants qui viennent voler les jobs, dit par un autre immigrant. Là,
ce passage-là est tellement intéressant.
Oui, puis on y viendra. Et donc, c'est ça aussi, tout ce rapport-là à l'identité, puis comment on se développe, on y viendra. Mais donc, passage intéressant. Retourne ensuite, après que sa dent soit réparée, chez lui, où il devait attendre son cousin Edouard qui venait le chercher en Mustang pour l'amener au mariage. Son cousin arrive en remorqueuse CAA. Puis bon, là, tout de suite, on va y venir. Puis ça fait partie aussi des éléments du passé qui sont racontés dans l'histoire, mais on comprend là, que Edouard a eu multiples mésaventures, notamment financières, depuis un certain temps. La mort de son père aussi, je pense qu'il était à peu près 6 mois, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas quelques mois avant le mariage. Et est complètement désorganisé, est arrivé en retard pour aller chercher la Mustang chez la compagnie de location et finalement s'est déplacé en remorqueuse parce que c'est ça son travail là, de jour d'être remorqueur. Et là donc c'est un peu le moment, il y a un peu une honte peut-être de ça, puis là s'en suivent les discussions de frustration puis de critiques multiples d'Alain à l'égard d'Edouard.
Une réflexion sur les classes sociales, l'éducation.
Oui, puis aussi un peu...
La culture.
Puis cette histoire vraiment ancrée dans un paysage montréalais de... Ils sont sur l'autoroute Descaries, pris dans le trafic, il doit faire 40 degrés Celsius, ils mangent une frite avec un orange Juliette, tu sais. C'est comme... moi, tu sais, qui quand même est allé me promener dans ces coins-là déjà dans ma vie, tu sais, j'avais exactement les paysages, puis la scène, c'était comme évident pour moi exactement il était où, à peu près.
Ben, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, le film va sortir la semaine prochaine, le 19 septembre.
Non, mais il va être en première au Festival du cinéma de Québec, le 10 septembre. Puis là, on est le 6 aujourd'hui.
Et le balado va sortir plus tard.
Je vais essayer d'être vite. Je vais essayer d'être quick, parce que ça serait bien comme...
Première chose que j'ai fait en lisant ce livre-là, c'est tellement cinématographique que tu viens de décrire exactement une scène où tu peux, comme cinéaste, reconstituer.
Puis, écoute, c'est niaiseux, ouais. Là, mais il y a une scène où il décrit qu'il y a une tache de... Il y a une motte de mayonnaise qui va lui tomber sur son complet et que là, il évite la tache. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est exactement comme je le verrais dans un film. Là.
Mais oublie pas que ça sera pas pareil.
Parce que
c'est jamais pareil.
Ah ben non, c'est évidemment là, mais...
Du roman au film. Donc il faut s'attendre à voir quelque chose de différent, inspiré d'eux.
Mais quand même, Philippe Falardeau, c'est quand même quelqu'un que j'estime. Là, donc,
ouais, mais il a fait des très bons films.
J'ai vu la bande-annonce, oui. Ça promettait quand même. Ah, juste sa mère, là.
Ouais.
Oh là là.
Yolande,
ouais. Donc c'est ça, sont en remorqueuse, plusieurs critiques, puis aussi là, c'est là qu'Edouard commence à se confier sur Edouard qui avait un peu accumulé 1 million de mensonges, ou en tout cas avait omis de dire la vérité sur plein de choses. Commence à se dévoiler tranquillement, bon, on y viendra, mais les enjeux immobiliers, comment il a dilapidé un peu la fortune de son... Ben, pas la fortune, mais l'héritage de son père qui venait de mourir. Ses multiples cartes de crédit qui sont maxées. Il y a à peu près 60 000 $ de dettes. Ramène aussi les histoires du passé de leur adolescence avec Badreddine, l'ennemi juré d'Alain, puis cette fameuse Constance des Montagnes. Et donc, il y a déjà cette tension-là qui est créée dans la conversation, dans la remorqueuse, qui est à peu près une des premières scènes du livre aussi, là. La première est au mariage avec l'histoire du père, mais après ça...
C'est la vie
même,
du père. Tout s'ouvre sur la vie du père.
Oui,
mais, hein, pendant
mais
quand même
après
beaucoup
ça,
de pages.
Ouais. Puis la vie du père, en tout cas, à travers cette marque... En tout cas, on y viendra, mais c'était une de mes scènes préférées dans le livre. C'est quand il marche d'une table à l'autre et que les moments du passé reviennent à chaque pas, ou presque, là, c'est... Narration vraiment impressionnante.
Ouais.
Et donc, c'est ça, se rendre jusqu'au mariage, jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph où se déroule le mariage, arrive un petit peu en retard, mais sans plus, se rendre dans la cérémonie. Finalement, Édouard, qui devait amener les anneaux, les oublie dans la sacristie. Et donc, une longue scène de recherche des anneaux, en fait, parce que la porte de la sacristie est barrée. Et donc, Édouard court partout dans l'oratoire Saint-Joseph. On fait essentiellement la visite de l'oratoire avec lui, avec une histoire de Saint-Frère André là, qui nous a raconté en long et en large. Finalement, retrouve les anneaux, trop tard, mais elle les retrouve quand même, juste avant que les vœux soient prononcés, là, mais quand même, brille par son absence pendant la cérémonie. Là. Donc, voilà. Ensuite, ils sortent. Alain hurle sur Édouard, toute sa frustration, sa colère de la remorqueuse et ensuite de l'anneau, puis de un peu tout ce qui s'est accumulé aussi dans le passé. Finalement, se rendre malgré tout à la cérémonie de nonos. Là. C'est ça, c'est comme ça on appelle après un mariage la cérémonie réception des invités. Là.
Je sais pas.
Je me suis jamais marié, donc.
Moi, je me suis marié, mais il n'y a pas eu de bouseur d'étape comme ça.
C'est ça, moi. Ouais. Hey, c'est une grosse affaire quand même qu'ils ont fait. À la toundra, quand même, je suis allé voir, on peut faire une visite guidée en ligne de la toundra. Tu peux te promener c'est pas très joli en fait là, mais le pavillon du Canada d'Expo 77 là, près du parc Jean-Drapeau à Montréal. Je pense que c'est l'île à côté du circuit Gilles Villeneuve. Donc réception qui est là avec les discours des parents. On a toutes les scènes là, de la mère d'Edouard, la mère d'Alain. Yolande qui s'est jamais remis en fait de son divorce il y a plus de 30 ans, genre rendu dans les, ou peut-être un petit peu moins de 30 ans là, mais dans les dans le livre, multiples moments de profond malaise. Alain qui consomme encore les Xanax un par-dessus l'autre pendant la cérémonie avec de l'alcool qui s'ajoute là-dessus.
Il s'évanouit.
Oui. Édouard qui, lui, règle ses problèmes d'immobilier avec Badreddine. Là, on y viendra peut-être dans le détail. Au téléphone.
Je regardais. Okay.
Le temps. On regardera. Hein, C'est correct. Le résumé, ça fait partie de la beauté du podcast. Quoi d'autre? Alain s'évanouit après toutes les substances qu'il a consommées. L'ambulance vient l'accueillir. S'en remet étonnamment vite de cette chute de pression-là qu'il a faite.
Ben, un choc vagal.
Oui, mais
tu
en même temps...
Tu te remets vite, normalement.
Dans le sens plus...
Toi, le médecin, là, tu
Non, on se remet vite de ça, mais la quantité de substances qu'il a consommées, ça, on s'en remet moins vite. Puis j'étais comme un peu impressionné que... C'est comme si, après le choc vagal, tout va bien, là, parce qu'on a vraiment énormément d'anxiété puis de description d'angoisse dévorante pendant tout le livre jusqu'à, finalement, le choc vagal. Puis c'est comme s'il y a un reset un peu, un redémarrage un peu d'Alain, puis c'est comme s'il retombe sur ses pattes à partir de là, puis qu'il retrouve un peu ses esprits à partir de ce moment-là. Et finalement, bon, c'est ça, c'était annoncé à multiples reprises dans le livre, mais Badreddine, son pire ennemi, et Constance des Montagnes, son amour d'adolescence, arrivent, ils sont encore en couple, puis bon, on y viendra, mais sont encore en couple, viennent les visiter durant le mariage. C'est comme si un peu tout se résout un peu. Il y a un peu vraiment un moment, là, pas, Oui, vraiment comme une fin heureuse, là, de la façon un peu que la narration est construite, je pense, à ce niveau-là. Dénouement heureux, là. Les problèmes immobiliers, financiers d'Edouard aussi semblent s'apaiser parce que Badreddine les rassure sur leur alliance financière avec les parents de Constance qui viennent aussi les appuyer dans tout ça. Et ils s'en vont vers leur voyage de noces, vers l'hôtel et ensuite vers leur voyage de noces en Égypte. Donc Virginie et Alain qui sont maintenant mariés et vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. En fait, une seule qui nous a raconté qui est Bénédicte.
Jusqu'à maintenant.
Ouais, c'est ça. En tout cas,
Dans
du moins,
le roman.
Oui, mais cette scène-là se passe en 2015. Je pense que la mort de Mime est en 2015, si ma mémoire est bonne. Je l'ai décrit à quelque part, mais je le retrouve pas
Oui, je pense que c'est ça.
vitement. Ouais, c'est ça, c'est 8 ans. Ouais, 2015, 8 ans après le mariage. Donc,
Et voilà,
voilà.
bravo.
Mais bon, peut-être quand même aussi, juste dire, là, parce que bon, là, j'ai fait la narration de l'histoire du mariage, mais donc, quelque chose qui est énormément présent, c'est vraiment l'histoire d'adolescence, là, de Alain Édouard, son cousin. Badreddine, qui est un jeune immigrant, mais qui est arrivé à l'âge de 10 ans au Canada. Je me rappelle plus de quel pays, mais un pays du Maghreb, là, je pense. Où,
Le Maroc?
ça se peut,
Ouais, je
oui,
pense
ça
que
se peut.
oui.
Initialement, en fait, Alain et Édouard faisaient les 400 coups. Badreddine est arrivé à leur école secondaire privée Mont-Saint-Louis.
Le
Moi, j'ai
beau
jamais vu
Badreddine.
l'école. Il faudrait que j'aille voir des photos
Ah,
de.
je te parle de Badreddine.
Ah, de Badreddine. Oui. Avec de la dégaine, puis beau gosse, un peu désinvolte, et séduit, en fait, bon, c'est ça. Donc, en parallèle de tout ça, Alain connaît à peu près vers l'âge de 12 ans une jeune fille qui s'appelle Constance Desmontagnes, de qui il tombe follement amoureux dès l'entrée au secondaire, deviennent très, très proches, voire inséparables, ces deux-là. Alain lui raconte tous les problèmes qu'il vit à la maison, notamment avec ses parents, là, leur divorce, puis leur chicane vraiment intense, là. Puis se lie, en fait, se crée vraiment une amitié. Puis Alain, en fait, une amitié, mais qui est factice, en fait, parce qu'Alain est follement amoureux de Constance et lui fait croire qu'ils sont seulement des amis. Et en parallèle de ça, Constance, évidemment, donc triangle amoureux, Constance devient follement amoureuse, elle, de Badreddine en secret. Elle ne le dit pas à Alain jusqu'en cinquième secondaire, au moment où elle le révèle à Alain. Lui, évidemment, réagit très mal. Évidemment, pas évidemment, mais il réagit très mal. En fait, insulte Constance et s'en va. Hein, puis c'est comme on comprend que c'est la fin de leur relation. Et les deux sont profondément blessés de ça. Mais aussi, par la suite, donc, il y a cette fameuse scène où Alain, Édouard et Badreddine, qui étaient aussi trois grands amis, se rassemblent. On comprend que depuis quelques mois, voire années, ils font un peu de commerce de stupéfiants, mais des stupéfiants étant les médicaments que consomme Alain. Et Alain drogue Badreddine et le menace de le tuer, mais se fait arrêter inopinément par son cousin. Et c'est l'arrière-plan qui explique un peu pourquoi le jour du mariage, c'est profondément troublant pour Alain que Badreddine s'invite 10 ans plus tard au mariage.
Fred,
As-tu survécu, Suzanne?
c'est beaucoup de détails.
Les gens le verront pas à la maison, mais
Beaucoup,
Suzanne était
beaucoup de
comme
détails.
meurs, arrête!
Fred, qu'est-ce que tu as aimé de ta lecture?
C'est drôle, hein, parce que j'ai eu vraiment du. Merci. C'est drôle parce que là, Suzanne me disait de me rapprocher du micro. D'habitude, c'est moi qui lui dis, fait que c'est correct.
Je prends de l'expérience.
C'est un livre qui s'est vraiment lu tout seul. Je l'ai lu en vacances en une semaine. Ça s'est lu vraiment vite, là, pour moi qui ne lis pas vite d'habitude. Je pense qu'initialement, c'était plus vraiment de tout comprendre l'intrigue puis de saisir chacun des éléments. Et je pense initialement, c'est ça qui m'a happé. Puis c'est tout le temps pourquoi la deuxième lecture est toujours très riche, même si je trouve ça. La deuxième lecture est toujours plus dure que la première parce que j'ai plus cet élément-là de découverte. Mais je pense que c'est en le relisant que j'ai peut-être mesuré la richesse de la narration, oui, du rapport au temps, des thèmes dont on parlait. de la psychologie des personnages, tu parlais des éléments de classe, du rapport à l'immigration, à l'identité. Fait que je pense que c'est ça qui, en deuxième lieu, m'a appelé. Puis j'ai été mieux en, c'est ça, capable d'aller chercher la richesse du livre.
Comment on fait pour vivre avec une maladie?
Aussi.
Moi, c'est beaucoup venu me toucher, surtout. On dirait que à la fin, avec le père qui explique à Alain, lui, tout ce que la maladie lui a causé, son divorce, sa fuite. Parce que,
son divorce?
Oui, parce qu'il fuyait tout le temps. Ah. Il fuyait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça a ruiné leur couple. Puis, il dit à son fils comment essayer de vivre avec cette maladie-là. Les deux ont la même maladie.
Donc, et c'est... Badreddine, comble de l'ironie, oui, aussi.
Aussi. Donc, c'est... Bon,
et bien
c'est,
pire, en fait.
C'est des maladies du côlon, hein? Des,
ben, on comprend...
Badreddine a une stomie, c'est ça que je comprends?
Oui, exactement. Mais on... Elle n'est jamais nommée, puis j'imagine que c'est par choix. Là.
C'est pas la maladie de Crohn, ben, peut-être, là.
On pense, ben, c'est fortement suggéré que ça soit ça, ou la colite ulcéreuse, là, qui est comme son cousin.
Mais,
là,
mais comme, c'est ça. Et c'est vraiment... Tout tourne autour de ces deux hommes-là, le père, qui est toujours en filigrane et qui est toujours un peu protégé. La mère, Alain, il est pas gentil avec elle.
Ouais, sa mère est insupportable.
Non, sa mère s'est occupée de lui.
Mais voyons donc.
Non, sa mère s'est occupée de lui. Sa mère lui a tellement donné d'amour.
C'est catastrophique de la façon qu'elle se comporte.
Oui, mais parce qu'elle souffre.
Quand elle lui dit « Oui, mais je te pardonne », ben voyons donc, une mère dit ça à son enfant. Hey!
Je pense que je l'ai déjà dit à la mienne.
Oh Jésus. Hey,
revenons à la maladie.
Oui.
Donc, quand t'es aux prises, un peu comme ce qu'on respire sur Tatooine.
Ouais.
Tu sais, t'as une maladie.
C'est vrai.
Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Tes rapports aux autres? Comment tu te sens un souffre-douleur? Mais à un moment donné, il faut que t'apprennes à vivre avec. Mais c'est pas évident, là. Puis la peine que ça peut causer aux autres aussi, de te voir dans cet état-là. Ou...
C'est drôle. Puis moi, ce que j'ai noté à un certain endroit, c'était plutôt ce deuil précoce qu'il doit faire de sa propre vie, en fait. Je pense qu'il a 15 ans, il est à l'hôpital Royal Victoria à Montréal, puis les médecins lui disent « je pense avoir une stomie avant 30 ans », puis je ne sais plus exactement tout ce qu'ils lui disent, mais essentiellement, il donne un pronostic extrêmement sombre du reste de sa vie, tu sais. Puis là, il a 15 ans, lui, tu sais. Puis finalement, c'est drôle, parce que ben, pas c'est drôle, mais ce deuil-là, il va l'avoir fait et il ne perdra pas en fait, il va trouver un traitement comme qui va lui convenir, les thérapies biologiques, probablement.
Ouais, ça, c'est des choses que tu connais.
Ben, c'est mentionné, là, de manière...
Oui, mais
peu,
je veux dire, tu connais, mais dans la vraie vie, là, toi, oui.
Ben,
peux-tu nous en parler?
Grossièrement, c'est vraiment... Je suis pas gastro-entérologue, puis je travaille pas du tout avec les maladies inflammatoires de l'intestin, là, mais essentiellement, il y a des nouveaux traitements qui ont été publiés, qui ont été, mis en commerce il y a quelques années maintenant, là, qui répond. En fait, ça dépend des... C'est parce que, tu sais, c'est ça, on dit la maladie de Crohn, mais il y a plein de sous-types, puis il y a plein de... chaque médicament ne convient pas à chaque personne.
Okay.
Là,
ça
donc,
a l'air complexe,
faut tester plusieurs trucs pour... Puis plusieurs classes différentes. Donc, on teste des classes. Certaines personnes répondent mieux à d'autres que... En fait, certaines personnes répondent mieux à certaines classes versus d'autres non. Là, donc, c'est très complexe, mais... essentiellement, il semblerait, dans ce qu'on comprend au moment de l'écriture du livre, qu'il avait trouvé quelque chose qui lui convenait. Après ça, est-ce que maintenant, cinq ans plus tard, ça lui convient encore? C'est un point d'interrogation, parce que des fois, on a une période de longue rémission avec un médicament. Après ça, on a des soubresauts qui peuvent survenir par la suite. Chaque personne a une maladie différente. T'sais. Puis, pour les hommes, peut-être c'est plus stable. Je sais que les grossesses aussi, pour les femmes, parfois, ça peut débalancer la maladie. Oh. Là, donc, ça peut varier aussi. Là.
C'est drôle. Tu pourrais me répondre. Il y a des femmes qui ont cette maladie-là, mais aussi. Je pensais que c'était plus des garçons.
J'avais une professeure au secondaire qui nous en parlait souvent, là,
okay.
qui avait une maladie. Puis c'est ça, puis je me rappelle, me semble que ces grossesses, ça a été des zones, ça a été des périodes d'accalmie pour elle, étonnamment, mais après ça, ça pouvait reflamber, tu sais, c'était pas, c'était vraiment pas heureux comme maladie.
La première fois que j'ai lu le livre, le début, j'étais dans l'autobus, je lis beaucoup dans l'autobus, Et là, on est
l'autobus de ville?
Pas, oui, oui, pour me rendre au boulot.
OK, pour voyageur.
Oui, okay. Pour me rendre au boulot. Puis là, je lisais le début du roman où on est dans un narrateur externe.
Mm-hmm. Oui, moi aussi.
Et puis
moi aussi, j'ai tiqué au moment où il a passé au jeu.
Ah, tu viens de vendre mon, tu viens de vendre mon punch. Excuse, mais... Pas fin. Là, tu vas faire une coupure.
Non, je refuse.
Là,
mais non, mais vas-y, finis.
Mais non, mais tu m'as coupé mon inspiration.
Mais là, voyons.
Alors, c'est comme une narration, c'est comme un roman.
Donc,
là.
On est dans l'autobus.
Non, mais t'as volé le punch. Alors, je recommence.
On n'arrête pas de parler tantôt.
Alors, j'étais dans l'autobus. Ouais. Si tu coupes ou si tu coupes pas. Alors, j'étais dans l'autobus. Et là, c'est une narration externe, à la troisième personne. Et là, je suis en train de lire et tout. Et là, ça commence... le dernier paragraphe. La salle est bruissante de rires et de conversations. Shafik prend une gorgée d'eau fraîche. Virginie, qui discute à bâton rompu avec Myriam, s'interrompt pour lui sourire. Elle est sans inquiétude. La nuit commence à tomber. Il est 20h45 et Shafik Elias Farah tourne la tête dans ma direction et me voit, moi, Alain Youssef Farah, son fils, son héritier, à l'autre extrémité de la toundra, du côté des jardins des Floralies. Au moment précis où, remontant ma braguette, je passe la grande porte de verre.
Youssef Charbel.
Alors, je me mets à pleurer.
Mais voyons donc.
À shaker. À être dans une transe. Je te le jure. Ah, ça faisait tellement... une espèce de plaisir de lecteur, là, de faire... Ah, tu me prends pas pour une... Tu sais, tu me prends pas pour un con, pour une conne. Tu m'emmènes là. Tu vas me faire vivre cette épopée littéraire. Là, j'ai fait...
ouais.
Et là, j'ai plongé. Puis là, après ça, on tombe dans « Il était une fois ». On a des narrations au-tu, au-je, au...
On a-tu un « tu » pas la deuxième personne, mais il y a des moments où...
On rentre dans la tête d'Edouard, on rentre dans la tête du père, on rentre dans la tête d'Alain, on rentre dans la tête de plein de personnages. Donc, on passe d'un personnage à l'autre.
Tout à fait. Puis moi, j'étais persuadé au début que le livre portait sur son père.
Ouais, mais et non.
Finalement, pas non. du tout. Ben, comme tu l'as dit, il est toujours là. Mais,
oui, mais
ben,
oui, ça commence avec Alain lui, puis ça finit avec lui.
Sa relation familiale. Ouais. Ah oui. Ça, j'avais pas remarqué.
Ben, à la fin, là, c'est son père qui lui parle.
Deuxième relecture, fait que...
Ben, à la toute fin, c'est son père qui lui parle. Ben avant qu'Alain se retrouve dans le dernier petit dialogue,
non,
la dernière page.
Virginie qui lui parle.
Oui, mais c'est la dernière page. Mais les dernières pages, c'est avec son père.
Oui, oui, oui. Puis après, ben, juste avant qu'il s'en aille à leur
ouais,
hôtel vers l'intercontinental.
Ouais, quelques répliques.
Ouais, puis mais il y a aussi des moments qui. Puis là, c'est ça, c'était en le réalisant que j'ai réalisé que. Au début, j'étais comme OK, troisième personne, première personne, mais il y a eu aussi des. Des moments. Ben en fait, c'est pas vrai. Je pense que quand je le réalisais la première fois, la deuxième fois, au début, je me disais, OK, des fois, il décrit à la troisième personne, mais ça demeure toujours quand même un récit à la première personne. Mais non, des fois, il se décrit lui-même à la troisième personne. Mm-hmm. Et c'est ça que je trouvais troublant.
Mais c'est jouissif. C'est plaisant, c'est agréable comme lecture. C'est sûr que ça peut être déstabilisant. Tu sais, pour ça qui n'est pas habitué.
Ouais.
Quelqu'un qui n'est pas habitué, mais en même temps, c'est tellement fait avec rythme, puis que ça s'explique super bien. Hein. Tu sais, on peut demander à un jeune lecteur, on est devant quel narrateur ici, et pourquoi il fait ça. Ça, c'est intéressant.
Une des choses que je voulais valider, puis tu mentionnais l'autofiction, c'est parce qu'il y a des personnages comme Mime, tu sais, qui le livre est dédié à cette personne-là, puis qu'elle est comme nommée. Puis là, je me disais, OK, ça doit être une vraie personne. Mais... Et donc, en faisant la même réflexion, je suis allé googler un peu les autres personnages. Tu sais, Badreddine Abderrahman. Tu sais, je suis allé voir s'il existait vraiment comme agent immobilier. Tu sais, puis je ne l'ai jamais trouvé. Je suis allé voir si Constance Desmontagnes existait dans le bottin des médecins du Collège des médecins du Québec.
Wow.
Et elle n'existe pas. Donc, je ne l'ai pas trouvé.
Il a dû changer les noms.
Ben, c'est ça. Tu sais. Puis encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé ou non.
Puis est-ce que c'est important?
Alors, moi, j'étais curieux.
Mais quand tu acceptes le pacte, tu es en train de lire un roman.
Ben oui, je sais, là. Mais...
Puis après ça, tout le reste.
Mais moi, je trouvais ça quand même... Là. Ben, tu sais, je sais pas, là. d'aller voir un peu, ils ont l'air de quoi, leur vraie bouille.
Mais n'importe quel roman que tu vas lire, un auteur va s'inspirer de sa, ben oui, de sa vie. J'imagine, là, t'as fait un,
de projection,
t'as fait un balado sur Le Seigneur des Anneaux?
Pas encore.
OK, mais tu vas le faire. L'auteur, je suis sûr que c'est inspiré de sa vie. Là.
Oui, oui. Probablement qu'il y avait plein d'orques autour de lui.
Oui, tout à fait. Tu t'inspires de ce que tu vis, de ce que... Puis là, tu en fais un roman. Ici.
Ben oui, mais c'est... Ben non, mais plus là,
je me demande même pourquoi...
C'est analytiquement...
Tu sais, c'est écrit roman dessus. Là.
Ah, ben oui.
C'est roman. Une fois que c'est écrit roman, t'acceptes le pacte, puis tu plonges. T'es allé chercher Constance de Trois-Maisons
ben
dans
oui.
le bottin.
Constance de Trois-Maisons. C'est pas Gabriel de Trois-Maisons.
J'ai-tu dit ça?
Oui.
J'ai dit Gabriel.
Non, t'as dit Constance de Trois-Maisons. Ouais. C'est Constance des Montagnes.
Ah, oh, mon Dieu.
J'étais comme la sœur de Gabriel.
Wow, ça va bien. Ouais.
Baby,
ok.
Quand tu danses,
non.
Chose que je...
bon. Mais le personnage le plus important, oui, on a parlé du père, mais le plus agréable pour moi, réfléchi pour toi, c'est Edouard. Moi, Edouard me fait. On dirait que là, la troisième lecture, c'est lui qui est ressorti encore davantage.
Ben, c'est un shit show. Mais
non,
c'est
que...
un enfant.
C'est lui qui a le cœur, qui est le plus, qui a le meilleur cœur, qui est le plus bon. Qui est le plus bienveillant. Qui... Sauf que, comme il y a eu la grosse chicane, moi, la grosse chicane entre les deux, ça m'a affecté énormément. Comment ils s'engueulent, là, c'est comme, mon Dieu, comment tu fais pour te remettre
oui.
de ça?
Moi, je pourrais jamais y reparler après. Là.
Bon, mais eux, ils réussissent.
Ouais,
et
c'est
une question
c'est
de
un roman,
non, mais je pense qu'Edouard, il n'a pas les mots.
Non.
Edouard, il n'a pas les mots.
Non.
Alain, il a les mots
ouais.
et il s'en sert très mal.
Et il y a l'attaque aussi qui vient.
Oui, c'est ouais. ça. Donc, et l'amour, normalement, est censé être plus fort. Et c'est ce qui se passe dans
ben
le roman.
Oui. Ben oui.
Mais il y a tellement... Edouard, il est toujours heureux.
Ben oui, mais tu peux pas... Oui, mais je suis pas d'accord avec toi. Parce que, tu sais, dans le fond, je pense qu'il est... il est l'archétype de la passive agressivité, Edouard.
Edouard!
Parce que les gens... Quand ils entendent passive agressivité, ils entendent agressivité, mais le vrai mot dans passive agressivité, c'est passive. C'est passif, en fait. C'est dans sa passivité, c'est dans l'omission qu'il va faire, c'est qu'il révèle sa vraie agressivité à l'égard des gens en renouvelant pas son bail, en cachant des choses à sa douce, en arrivant en retard pour la remorqueuse, en investissant de manière cachée dans les biens immobiliers, en oubliant les alliances. C'est
okay.
une forme d'agressivité à l'égard des autres personnages.
Je vais te citer Alain Farah sur le personnage d'Edouard.
Mais c'est pas parce qu'Alain dit qu'il a raison.
Le personnage d'Edouard possède une sensibilité extrêmement développée quant au fonctionnement des choses. C'est une sorte de génie. Mais la vie ne lui a pas donné l'occasion d'exercer ses dons autant qu'il l'aurait pu. En fait, il est plus fort qu'Alain, mais il n'a pas eu les mêmes privilèges. En même temps, le romanesque passe par lui, puisqu'il élabore la fiction la plus riche avec la création de la congrégation. C'est lui qui mène le jeu par rapport à tout ça. Alain, lui, il suit, il embarque.
Ben,
mais moi, ça me fait réfléchir.
Je suis pas vraiment en désaccord avec ce qu'il dit, mais je suis pas d'accord avec toi qu'il est d'une pureté infinie.
Non, j'ai pas dit qu'il était pur. J'ai dit qu'il était gentil, qu'il était bon.
Ben, moi,
c'est pas la même chose.
Je pense pas.
Pas la même chose. Ça t'empêche pas d'avoir des plans bouseux là, quand t'es gentil.
Qu'il est
là.
Maléfique, là. C'est pas ça. Vraiment,
pas du tout.
Je veux pas être maléfique.
Il y a juste.
Mais je suis pas d'accord.
Il y a pas d'argent avant d'avoir l'héritage de son père.
Je suis d'accord.
Tu sais, il fait partie. Il a pas été à l'école autant. Il a pas. On vit dans une société
oui, mais...
où il y a ces inégalités-là, mais il n'y a pas la faculté, quand il reçoit l'argent, de faire un placement.
Il
n'y
a pas besoin
exemple.
D'argent pour rattraper les anneaux puis arriver à l'heure à sa remorqueuse,
mais ça,
à la moustache.
Mais c'est juste un peu de candeur. Il rentre à l'oratoire sur Joseph, et
non.
moi, quand je suis allée, j'ai vraiment...
Mais tu as raison qu'il n'a pas les mots, mais il va transformer ses gestes en agressivité, quand il fait ces omissions-là, l'acte manqué,
il est
dans l'inconscient.
Agressif, mais non.
Mais c'est ça que je te dis.
Alain est l'agressif.
Ah, c'est ça que je te dis. Il est agressif dans sa passivité. Il n'est pas agressif, il est passif. Mais passif-agressif, d'où l'appellation
mais
de la passive-agressivité.
Les anneaux arrivent pareil.
Ben oui, mais fucking en retard.
Mais c'est pas
grave.
Il
prend le temps de lire des pamphlets. Il prend
mais
le temps de lire
était...
des pamphlets.
Mais il est ému quand je suis allée à l'oratoire. Qu'est-ce que j'ai devant toi présentement? Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Un dépliant du frère André. J'étais...
Les gens, ils ne voient pas ça.
Quand j'étais... Ouais, mais je te... J'ai, cher vous qui écoutez, un dépliant du frère André. Et quand j'ai vu le cœur du frère André, je pleure beaucoup. Ce livre-là m'a fait beaucoup pleurer. en sachant qu'il y a eu
qu'il a été volé. C'est peut-être même plus son vrai cœur.
Oui, c'est sûr. C'est des étudiants de médecine qui ont fait le coup.
Probablement.
Mais 1 million d'humains qui sont venus...
Pas 300 000?
1 million défilés. C'est 1 million qui sont venus défiler à ses funérailles.
Ça se peut-tu, hein? Puis on devait être à peu près 2 millions au Québec dans ce temps-là.
Exact, exact. Peut-être moins, je sais pas. Mais c'est complètement délirant. Mais revenons à Édouard.
Je suis pas d'accord.
T'as envie d'être avec cette personne-là parce que tu vas toujours... Non, moi, j'ai pas envie d'être avec Alain, là.
Non,
qui est toujours en train de se gratter.
Une Bim ou une Virginie, là.
OK, mais...
Je veux être leur gay friend, là.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas eux, les personnages centraux, là.
Non.
Virginie est même...
Elle est effacée.
Oui, mais c'est volontaire. Alain Farah, il dit, je veux pas mettre ma vie amoureuse.
Évidemment.
C'est pas le but du livre, là. Donc, ouais. Ah oui, ben moi j'ai tellement aimé Édouard à la troisième lecture.
Mais en fait, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais tu me disais c'est quel ton personnage que tu as trouvé le plus gentil ou le plus bon. Moi je suis pas d'accord, mais après ça, est-ce que je l'ai trouvé divertissant, puis j'ai trouvé qu'il amenait de l'intrigue, puis qu'il amenait un plaisir à comprendre les péripéties qu'il va vivre? Oui. Effectivement, c'est extrêmement bien raconté, puis ses comportements au mariage, quand Yolande arrive pour faire son discours, elle est là encore à vivre, toujours pas à accepter le fait que de son divorce, puis qu'elle est là se posant en victime tout le long, puis tout ça, puis Edouard qui est comme « Let's go, ma tante! » Puis il renverse l'alcool sur le public, tu sais, il y a des scènes d'images que tu peux tellement t'imaginer si t'as déjà été dans un mariage, cette espèce de mélange-là, de malaise, d'attente, puis de journées fantasmées par les gens qui sont jamais aussi incroyables que dans leurs imaginations.
Édouard,
oui.
J'aime pas le mot agressif par rapport à lui. Je vais
disons, il est pas agressif, il est passif-agressif.
Passif-agressif, mais ça non plus, j'aime pas ça. Page 374, ça c'est ceux qui ont la version complète.
Nom de poche. Là.
Édouard sentit, quand Alain est en train de lui dire vraiment plein de choses horribles, Édouard sentit le quitter toute l'énergie qui lui restait. Il sortit son téléphone de sa poche intérieure et lança une partie de des mineurs, se ravisa, lança une partie de solitaire. Il essayait de ne pas laisser la tristesse et la colère l'envahir, surtout la colère. Il ne s'en remettrait pas. Il fallait attendre que ça passe et que quelqu'un arrive qui désamorce Alain.
Mais...
il ne veut pas entrer dans ces émotions-là. Toi, tu dis, moi, si on parlait comme ça, je n'y parlerais plus jamais.
Mais
lui, il fait comme... Il se met une bulle et dit...
Oui, mais
par amour, ça va passer. Il a bien beau me dire toute la merde qu'il veut, oui, je le laisse aller parce que je sais qu'il souffre.
Non, parce qu'il va l'exprimer ensuite d'une autre façon. C'est ça. C'est comme ça qu'il va l'exprimer plus tard. C'est que ça va remonter d'une autre manière.
Pas en oubliant des anneaux, voyons donc.
Ben oui!
Mais non!
Ben oui!
Mais non!
Ben oui!
Hey, moi, le Freud, le sort de ce corps, s'il te plaît.
Mais non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce que c'est tellement une journée importante pour Alain, c'est la pire chose qu'il pouvait faire dans sa journée, puis il le fait.
Il arrive à temps, les anneaux, je suis pas d'accord.
C'est pas grâce à lui, c'est parce que Suzanne Mechanic le trouve. C'est pas parce qu'il s'est débrouillé et qu'il les a trouvés lui-même. Là. Sinon, il n'aurait jamais trouvé ses anneaux.
OK. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est des constructions, un mariage. Une construction.
Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça me donne pas envie de
se marier pareil.
Mais pourquoi t'es marié? Moi, je suis pas marié.
Ah, je suis marié parce que sinon...
Pour les impôts.
C'est compliqué puisque j'avais des parents morts.
Ah.
Il fallait m'assurer que mon héritage allait à mes enfants.
OK.
Bon. En tout cas, il y avait des trucs techniques, des technicalités.
C'est une bonne raison, j'imagine. comme ceux qui se marient pour...
Mais non, moi, je me suis mariée. C'est un petit mariage d'amour. Un mariage d'amour dans ma cour, là.
Ah.
C'est ma meilleure amie déguisée en pingouin. Oui, puis on a fait un gros party, là. C'est tout, là. Ça serait spécial parce que j'avais commandé un super buffet. Puis on est arrivé, mon mari, mon chum et moi, plus rien dans le buffet. Mon mariage.
Écoute, tout le monde avait tout mangé?
Oui! Il y aurait des choses à raconter, ce mariage-là. Il y a toujours des choses qui se passent dans un mariage.
Oui, effectivement.
Je te souhaite de te marier un jour. C'est vraiment cool.
Ben, moi, j'ai pas beaucoup de proches à inviter, je sais pas trop ce que ça serait, là.
Moi, en fait, c'était juste non, des amis à mon mariage.
Ouais, exactement. J'aurais pas de famille à inviter, mais ça serait des amis. Ça, c'est la famille choisie, en fait.
Puis ça m'a rien coûté. Parce que les invités payaient leur repas. Puis c'est tout. Moi, j'avais des souliers à 50$, une robe à 50$.
Parce que moi, ce qui me met profondément mal à l'aise dans les mariages, c'est l'espèce d'auto-célébration. Dans les quelques mariages que je suis allé d'amis, là. Ouais.
Mais c'est une célébration de ton amour que tu étales au monde, là.
Oui, mais en même temps, tu demandes à tout le monde de venir te célébrer. C'est un peu ça aussi.
Ben oui.
Puis en t'amenant des cadeaux, en t'amenant des. T'sais, puis moi, ça.
Maman, il n'y avait pas de cadeaux.
Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, mais dans moi, les mariages que je suis allé, il y en avait. T'sais. Puis c'était des mariages conventionnels. Là.
Ouais, non.
Et donc, et aussi, ces normes, en fait, très, très, très hétéronormatives, là, on fait le jeu de la jarretière, puis on se promet fidélité jusqu'à la fin de nos jours, puis c'est, moi, j'ai vraiment eu des profonds malaises.
Hé, on n'y a pas ça dans le mariage. Roman.
Ben non.
Il n'y a pas de jeu de jarretière, etc.
Pourtant, c'est un mariage religieux. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a troublé, le rapport à la religion.
Ouais, allons-y. Là, c'est intéressant.
Alain, tu sais, qui me paraît comme quelqu'un, puis là, mon Dieu, ça va sonner extrêmement maladroit ce que je m'apprête à dire, mais je vais le dire pareil, puis on le décortiquera par la suite. Là. Mais qui me semble quand même quelqu'un d'extrêmement raisonné, puis peut-être qui aussi, de manière intéressante, dans sa quête identitaire, cherche vraiment à s'éloigner de ses origines immigrantes, pas volontairement, là, mais en épousant une blanche, en adoptant des son identité québécoise, en rejetant certains thèmes, par exemple avec Badreddine qui traite d'arabe, puis tout ça, en disant que lui, dans le fond, s'est un peu élevé au-dessus de ça, mais qui malgré tout conserve ce rapport à la religion et qui n'a pas adopté peut-être la position de la laïcité de la Révolution tranquille québécoise, vraiment, qui je pense assez répandue, puis particulièrement dans les cercles universitaires dans lesquels il fraye. Là. Donc, j'étais un peu surpris de son rapport à la religion et aux religieux plus largement dans le livre.
Ouais. Ça nous amène à la discussion avec Wally Wally, justement.
Oui.
Tu sais, à un moment donné, il dit...
La religion du père.
Tu trouves que j'exagère. Eh bien, pas du tout. Ils font comme toi, Chafaud, les Québécois de souche. Ils acceptent d'abandonner ce qu'ils sont pour ne pas peiner les autres.
Ça a été dur pour toi d'abandonner la religion catholique ou...
Non, mais c'est qu'on veut pas... Les Québécois veulent pas blesser les autres. On est un peuple qui est très, très tolérant, là, de consensus.
C'est une force aussi.
Mais tu sais, en même temps, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on va? Là, c'est toute l'histoire des prières de rue. T'as-tu suivre ça? Non, ça, c'est... N'en parlons pas, parce qu'il y a beaucoup de couches, puis il y a beaucoup de...
Oui.
Et chacun a une opinion là-dessus. Oui, on n'habite pas à Montréal. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant le rapport à la religion qu'on a ici, comme tu dis, parce qu'on l'a mis de côté.
Ben,
mais il reste quand même un grand fond.
Mais moi, en fait, personnellement...
Cateau au Québec. Là.
Oui.
T'sais, on se le cachera pas.
Ben là. Oui, soyons clairs, on a une catholaïcité, là, mais personnellement, puis même des fois j'entendais des déclarations des politiciens sur « j'espère que Dieu existe », moi qui est profondément athée, je comprenais pas trop. Là. Et en fait, c'est ça, c'est peut-être aussi, c'est ça mon problème. Je pense que j'ai une posture, réellement, là, soyons honnêtes, je pense que j'ai une posture condescendante avec la religion. Pour moi, je comprends pas l'idée de croire, en fait, je pense. Je comprends pas cette idée-là. Parce que pour moi, je pense que j'ai adopté une idée qu'on a un passage d'étoiles filantes dans le monde, mais que malheureusement, c'est...
Ah, tu as dit le mot magique, parce qu'on est tous des étoiles. on ne fera pas un podcast ésotérique, parce que moi, je n'ai pas la même posture que toi du tout.
Je sais que tu n'as pas la même posture.
Ouais.
Les gens ne le savent pas, mais moi,
zéro religion, mais bien d'autres affaires.
Oui. Mais puis réellement, la vraie posture, c'est que personne ne sait. C'est ça.
C'est ça qui est le plus trippant.
C'est ça.
Ouais.
Mais
c'est pour ça que la philosophie existe.
Mais je pense que cette idée des religions abrahamiques, notamment.
Oui, bien là, revenons
qu'il
ici.
Qu'il y a
là.
Un seul Dieu, ça, je pense qu'en termes de probabilité, elle est beaucoup plus faible que l'idée qu'on le sait pas, tu sais, dans le sens... L'idée de le savoir m'apparaît beaucoup moins probable que l'idée de pas le savoir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
L'idée de savoir m'apparaît...
L'idée de savoir... Oui, vas-y. Okay. T'as compris ce que j'ai dit ou t'as pas
oui,
compris?
Oui, oui, okay. Tu peux le répéter.
Ben, c'est ça. L'idée de savoir ce qu'il y a après la mort ou de savoir qu'est-ce qui fait partie de notre univers cosmique, pour moi, c'est beaucoup moins probable que ce soit véridique que d'admettre qu'on le sait pas. Je sais pas si c'est clair ce que je
veux dire. Oui, mais ça serait quoi l'intérêt de le savoir? Il n'y aurait plus de plaisir à vivre, ouais, je pense.
Mais les gens qui sont religieux disent qu'ils le savent. Donc,
ah oui, c'est bon, ça que je veux dire. Oui, mais ils ne le savent pas.
Ben non, c'est ça que je dis. C'est
ils
mon,
pensent
c'est mon propos. Oui,
oui, tout à fait, je comprends très bien.
Voilà.
Et c'est là, ici, dans le roman, à un moment donné, il dit « Pourquoi tu laisses ton fils se marier chez les Latins? Mm-hmm. Il n'y avait plus de place chez les Grecs catholiques. » Eh bien, Alain est maronite. Là, tu vois, c'est complexe. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs... Tu sais,
c'est complexe parce que là, on parle de plusieurs factions ou plusieurs... culte chrétien ouais. En Égypte. On ouais. Connaît surtout les Coptes, je pense.
Oui, mais les chrétiens en Égypte, en Moyen-Orient, beaucoup de chrétiens sont massacrés par les musulmans.
Tout à fait.
Mais c'est ceux-là, c'est eux bien qu'on sûr. A dans notre roman. Et bien ça, sûr. Moi, je n'avais pas si longtemps que ça que j'ai découvert ça, puis ça m'a troublé.
C'est comme
ça
un peu
troublé.
L'inverse. L'espèce ouais. D'islamophobie qu'on a ici est retournée là-bas contre les chrétiens, finalement.
Oui, est inversée, quelque chose. En tout cas. Bref,
heureusement, on massacre
c'est,
pas
c'est
nos,
un
nos
roman qui amène à réfléchir à ça, de là à tout comprendre les couches d'Alain. Je pense pas qu'on va y arriver, mais...
ben, non, mais aussi, moi, une des choses que...
C'est pas aussi la pression des parents?
Ben, c'est un... ben j'allais pas...
Souvent, les jeunes se marient ou font baptiser leurs enfants. Moi, j'ai pas fait baptiser les miens, mais... J'ai
ben
plein
oui.
D'amis
par
autour
tradition,
de... Oui, mais plein d'amis autour de moi qui ont fait baptiser leurs enfants. Puis je suis comme, mais pourquoi? Puis... Aujourd'hui, mes enfants me remercient de ne pas être baptisés.
Puis, jamais trop tard. Là,
puis, mes amis l'ont fait pour leurs parents. Ils l'ont fait pour leurs parents, parce que sinon, ça leur ferait trop de peine.
J'ai essayé de me faire apostasier récemment. Je t'avais-tu parlé?
Non, mais c'est cool. T'as-tu réussi? J'aimerais ça
j'ai
le faire,
pas
moi
réussi.
Aussi.
J'écoute,
Rabelais a réussi, donc tu devrais réussir.
Oui, je savais pas. On lira Gargantua. oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, j'ai écrit à la paroisse. Ben, en fait, c'est parce que là, c'est ça, il y a eu plein de fusions de paroisses, là, fait que ça devient mêlant de trouver le bon endroit, là, mais ils n'ont jamais retrouvé mon baptistère.
Ouais.
En fait. Mais j'avais plus la date exacte de mon baptême, mais tu sais, je leur ai dit à peu près.
Mais
j'ai plus ça, non.
Ben, si tu veux un passeport, tu n'as pas le choix de montrer ces pièces-là.
Ben, un certificat de naissance.
Oui, c'est ça, tu as un certificat de naissance.
Il n'y a pas mon moment de baptême d'écriture.
OK.
Puis c'est parce que je sais que j'ai été baptisé plus tard, là, parce que mon parrain est en voyage, machin.
OK, mais, OK, je comprprends ce que tu veux dire.
Bref, ils
n'ont
jamais retrouvé la date de mon baptême, mais tu sais, j'ai un nom assez unique, là, Tupigny, il n'y en a pas 25. Puis ils n'ont jamais trouvé, fait que je pense que peut-être j'existe plus dans un registre ou je sais pas quoi là, fait que j'ai pas réussi à me faire apostasier. J'ai essayé là.
C'est quand même drôle.
Comme j'ai vraiment essayé de quitter la religion, j'ai pas été capable par des problèmes administratifs. Ouais.
OK. Mais ouais, moi qui pensais enfin pouvoir trouver la
ouais. Ben, t'essaieras. Je sais pas t'as été baptisé où là, mais ils sont peut-être mieux organisés que dans Portneuf là.
OK,
t'es
revenons.
Pas du lac, toi?
Hein?
T'es pas du lac?
Je viens du lac Saint-Jean,
ouais,
oui.
C'est ça. Ben, ouais. Cherche-le. Là.
OK, le divorce. Je vais te retrouver le passage. Alors, il dit, je suis arrivée presque par hasard ici, dans ce pays de froid. Mm-hmm. Puis j'ai connu ta mère, il y a Alain. Et nous nous sommes mariés. Ta mère, ta grand-mère, ses frères. Ils formaient un clan. C'était nouveau pour moi, qui était orphelin. Je peux te dire que ça n'a pas toujours été difficile avec ta mère. Nous avons été heureux. Mais j'en ai voulu plus d'argent, plus de moyens. Je me suis jetée dans le travail, j'ai commencé à voyager, j'étais tout le temps partie. Quelque chose entre Yolande et moi s'est brisé. J'ai voyagé pour l'argent, puis j'ai voyagé pour fuir la maison. J'ai laissé ta mère seule avec toi. Je t'ai laissé seule avec ta mère, je le sais. Elle m'en a toujours voulu pour ça. Elle n'était pas bien. Du matin au soir, elle avait le nez plongé dans son dictionnaire médical à vérifier si tu étais malade. Votre corps, 1000 secrets, 1000 dangers. C'était
un peu,
le titre.
Connais-tu le syndrome de Munchausen?
Explique peut-être.
C'est une maladie dans laquelle une personne se valorise à travers.
Ah oui, j'ai écouté la série Sharp Object. Ah oh, non, pas ça. Pas à travers sa maladie.
Non, c'est ça. C'est pour aller chercher des gains secondaires à travers sa maladie, dans le fond. Et on peut la vivre par proxy. Fait qu'on peut avoir une mère qui vit la maladie de Munchausen. Là, par contre, c'est des syndromes factices. Là, lui, il est vraiment malade, Alain, dans ce cas-ci. Mais...
La maladie dont je te parlais, c'est que tu rends ton enfant malade.
Oui.
Tu rends ton enfant malade pour te sentir... OK, ben c'est ça.
C'est un peu ça. Là.
C'est ouais. ça. Ben, y a une série, la dernière série qu'a fait Jean-Marc Vallée. C'était présenté au Diamant cet été, à l'exposition.
Oui, mixtape. Ouais. OK, mais j'avais pas...
Non, c'est super.
Je suis allé à l'exposition, ouais. mais j'avais pas attrapé...
Puis moi, j'avais tout vu son œuvre, sauf cette série-là que j'ai écoutée dernièrement. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est une mère qui rend malade volontairement ses enfants pour se valoriser. C'est fou comme c'est documenté, là. Ce que tu me dis. Ouais. Là. Ouais.
Mais
le petit, lui, il est malade pour vrai, là.
C'est ça. Ouais. Fait que c'est pas exactement la vraie définition, là, mais il y a quelque chose. Mais moi, c'est ça. C'est, je trouve ça drôle que tu adoptes vraiment la position de la victime pour la mère. Tu sais.
Oui, parce que je suis une mère.
Mais clairement, à l'égard de son père, probablement qu'elle a effectivement été victime. Mais moi, c'est vraiment dans la relation avec Alain. Moi, je suis complètement. Moi, je peux pas faire porter ça à l'enfant d'avoir. Tu sais, l'enfant n'est jamais responsable des ajustements.
Non, je comprends. Je comprends. Mais moi, mon point de vue, c'était juste que dans le roman, il a vraiment protégé son père et il a vraiment été très, très agressif sur sa mère.
C'est vrai.
Elle pense au cash, on dit en bon québécois.
Oui, oui. Non. Puis durant le mariage, puis... Ouais. C'est vrai. Mais son père a vraiment quelque chose de stoïque, hein, comme si...
Bon, moi, à la fin, il reconnaît. Hein.
Oui, tout à fait. Non, mais stoïque dans le sens qu'il réagit, tu sais, Wally, il réagit, son père réagit rien.
Non, tout ce passage raciste conflit, et tout, veux-tu en parler? On est rendu là?
Ben, comment dire, tu sais, encore là, je redeviens freudien, mais dans cette, tu sais, il y a un rejet de soi-même dans ce que Wally dit, dans le fond, quand il parle des maudits migrants qui viennent voler les jobs, tu sais, puis là, c'est comme, mais quoi, tu sais, t'es migrant toi-même, tu connais la souffrance de la personne migrante, tu sais.
Pis... Moi, là, une fois, je prenais un taxi pour aller à l'aéroport à Montréal, et c'était un chauffeur algérien. Et puis, il nous disait, à toute la famille, « Ils vont tous débarquer ici, ils vont tous venir prendre nos jobs de taxi, là! » Puis, j'étais comme, « Ah, qu'est-ce que j'entends? Ouais. »
Ben, c'est ça.
C'est quand même assez courant, ce discours-là, ben, chez les immigrants eux-mêmes.
Ben, oui. Non, mais pour moi, c'est la même chose que l'homophobie intériorisée chez les homosexuels. Tu sais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est du stigma intériorisé chez une personne qui en a vécu, mais qui en est inconsciente, malheureusement. Là. Mais oh là là, c'est... Mais tu sais, c'est ça. Ben, c'est un personnage de roman, là, mais ils doivent exister, ces gens-là. Là, et c'est malheureux. Ben, c'est comme les Cubains qui votent pour Trump, des choses comme ça. Trump passe son temps à parler contre les personnes hispanophones, puis ça n'a aucun sens. Là. Donc, c'est malheureux, mais ça existe.
Il y a tellement d'hispanophones aux États-Unis. Ça te tente-tu de parler? Moi, j'ai ri beaucoup en lisant ce livre. L'humour. Ah. J'ai trouvé l'écriture très drôle. J'ai ri à gorge déployée.
OK. Ben, il y a de quoi d'ironique souvent, mais...
Mais c'est peut-être pour les profs de lettres, je sais pas.
Peut-être.
Regarde juste un passage, il dit... Il y en a qui disent que c'est des étudiants quand ils ont volé le cœur. Il y en a qui disent que c'est des étudiants en médecine de McGill qui ont fait le coup pour une initiation. Ils appellent ça un concours de prise. Tu dois rapporter la chose la plus improbable, la plus rare, la plus spéciale. Tu as fait quoi? Tu as fait ça, toi? C'est Édouard qui parle à Alain. Hein. Non, j'étais en lettres, c'était nul. Il fallait se déguiser en Marcel Proust ou en Marguerite Duras. Là, Édouard, des Français morts qui ont écrit des livres? Ouais, c'est pas mal ça, là. Ah, oh, le monde à l'université a rien à faire, c'était peurant. Tu sais, il y a toujours c'est drôle, là. Moi, j'ai ri, là. Édouard m'a fait...
Ben,
moi, j'aime Édouard.
Ben oui, ben, tu sais, comme... Mais ben, moi, c'est plus, tu sais, justement, je te disais, quand il regarde les dépliants, tu sais, puis que c'est comme... Qu'est-ce que tu fais? T'sais, c'est comme le. Mais en même temps, il essayait de s'inspirer pour sa religion. Là.
Oui!
T'sais, il vole les dépliants.
Bon, enfin, il redonne à Édouard ce qu'il revient à Édouard.
Il y a un peu de pathétisme, en fait, à certains moments. Non, mais c'est vrai. Là,
mais c'est pas de sa faute.
Non, mais évidemment que c'est pas de sa faute, je suis d'accord avec toi. On n'est jamais responsable des circonstances dans lesquelles on est. Là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, ça invente une fausse religion pour valider. Pas valider, mais. comment dire, légitimer son projet immobilier avec un bâtiment religieux, tu sais, en tout cas.
C'est drôle.
Sinon, ben, ce qu'on a parlé tantôt, mais la relation à la pharmacothérapie,
ah oui, c'est vrai,
aux médicaments.
De ça. Allons-y. Parce qu'il y en a beaucoup des noms de médicaments là-dedans.
Ouais, moi, c'est...
C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Moi, là, je connais pas ça, du Xanax. Qu'est-ce que ça fait?
Dans le fond, les benzodiazépines, qui sont la catégorie... Le Xanax, c'est son nom commercial, on l'appelle l'alprazolam. Toutes les benzodiazépines, c'est des médicaments qui terminent en AM, dans le fond. Fait que le lorazépam, l'alprazolam, bon, bref, etc. D'autres médicaments qu'on connaît bien, l'Ativan.
Oui, ça, j'ai déjà entendu ça.
Le Valium.
Oui, ça fait dormir, ça.
C'est tout des calmants.
Ah,
en fait,
OK.
C'est des antidépresseurs.
C'est des antidépresseurs ou des calmants?
Anxiolytiques, on les utilise un peu à tout vent, mais...
Mais quelqu'un qui fait une dépression, tu lui donnes pas du Xanax.
Ben, en fait, c'est vraiment des médicaments à courte action. C'est ça le problème avec les benzodiazépines. Ça s'apparente un peu sur le cerveau aux effets de l'alcool, en fait.
Okay.
C'est pour ça que quand il se crinquait à la fois des de l'alcool et ses Xanax durant la réception, j'étais comme, oh damn, c'est intense.
Mais l'effet de l'alcool, quand c'est le fun ou quand c'est pas le fun?
Ben, l'effet dépresseur de l'alcool, disons. Là,
OK, donc
relaxant,
c'est le fun.
Mais oui, on pourrait dire. Là, mais ça dépend de chaque personne.
Oui. Puis, mais t'as pas d'effet secondaire autant que l'alcool.
Non, mais comme je te disais, c'est vraiment l'effet rebond, généralement. Là, parce que généralement, c'est le fun, c'est le fun. Ou en tout cas, ça calme un certain temps, puis après ça, ça repart en pire d'habitude.
Ah, OK.
Tout dépendant de la dose, puis tout dépendant de la fréquence. Puis aussi, c'est un médicament qui développe la tolérance. Fait que plus t'en utilises, moins c'est efficace. Là. Et le Xanax aussi, c'est parce que c'est un médicament qui veut plus dire grand-chose, parce que l'alprazolam, là, vraiment, sa forme commerciale produite par les compagnies pharmaceutiques, c'est standard, mais dans la rue, il se vend beaucoup de Xanax, mais ça veut dire c'est rendu un terme qui veut dire un peu n'importe quoi, parce que ce qu'on trouve dans la rue qui s'appelle des Xanax, c'est pas de l'alprazolam, là, c'est un mélange de plein de cochonneries... qui est rassemblé, qui fait un effet similaire, tu sais, mais ça contient n'importe quoi, dans le fond. Là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est ça. Quand tu fais un sevrage d'alcool, mettons que tu arrives à l'hôpital et que tu es un gros buveur, mettons que tu te tapes une 24 par jour, puis que là, tu arrêtes de boire d'un seul coup, là, on va te donner des benzodiazépines pour
aller chercher
compenser
l'effet. Okay.
Graduellement, avec des doses descendantes, parce qu'un sevrage d'alcool, ça peut être mortel.
Ah,
dans
oui?
le fond, si c'est pas bien, bien géré. Là.
Okay.
Fait que, ben, ça dépendant, là, mais il faut vraiment pour les gens qui en prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On salue mon lave-vaisselle qui fait du bruit en ce moment. C'est ça. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intense sur la santé. Là.
OK. Ben écoute, c'est instructif,
donc,
c'est important de le savoir. Parce que là, tu vois, moi, je t'écoutais, intéressant. Puis finalement, non, pas tant.
en fait, le Xanax, c'est un des pires parce qu'il est vraiment à courte action. L'Ativan, qu'on donne plus souvent, un petit peu plus longue action. Le Valium.
Ben, quand ma mère subissait des traitements de chimiothérapie, il lui donnait ça, de l'Ativan.
Ouais, c'est ça.
Mais pourquoi il lui donnait ça?
Traitement de chimio?
Ouais. Ben, pour la calmer, je sais pas, elle était vraiment calme.
Ben, c'est un médicament qu'on peut donner.
Elle était pas stressée.
Je pourrais pas te dire.
Okay. Il y avait des activants, en tout cas, il y avait toute une pharmacopée impressionnante.
Ça se peut, c'était pour la calmer.
Donc, t'allais parler de ça, là,
c'est
pharmacopée. Moi, j'ai tellement vu ma mère se faire bourrer de tellement d'affaires dont elle n'avait pas besoin.
C'est ça, en fait. Puis je pense qu'il y a une ambivalence, je pense, dans le livre par rapport aux médicaments, parce que on illustre comment, finalement, ça lui a sauvé la vie, d'une certaine manière, Alain, quand, finalement, il réussit à trouver le bon traitement pour sa maladie, mais que, d'un autre côté, fait que pour sa maladie physique, ça l'a sauvé, mais pour tout ce qui est de ses enjeux de santé mentale, de son anxiété, de sa détresse profonde, on voit que ça fait plus nourrir le démon que l'aider réellement, tu sais. Et que il y a cette dynamique de dépendance-là qu'il s'est créée, malheureusement.
Puis c'est pas, justement, toi, tu dois le voir. Au Québec, on a un problème.
Qu'on banalise.
Oui,
aussi,
on a un
que les médecins lui ont donné ça comme pour le calmer, mais que finalement, ça pour l'aider à court terme, pour acheter un peu la paix, finalement, puis qu'on perd de vue comment aider une personne à long terme parce que, malheureusement, les ressources, puis l'argent, puis finalement, mais ultimement, la question se pose toujours. Si on avait vraiment une approche intelligente par rapport à ça, peut-être qu'on sauverait de l'argent réellement, mais puisqu'à court terme, c'est plus simple de donner un calmant que d'engager quelqu'un dans une démarche de psychothérapie ou de tout autre développement personnel. Et ou sinon que parfois aussi, j'ai plein de patients qu'ils ne veulent rien savoir de travailler sur eux, puis qu'eux, ils veulent la solution facile sous la forme d'une pilule aussi.
Ouais.
Comme médecin, des fois, on est pris entre ce qu'on sait qui est le mieux, ben, comment dire, c'est très paternaliste de le dire comme ça, là, mais ce qu'on imagine peut-être serait le mieux pour la personne à long terme et ce que la personne nous demande dans le bureau aussi.
Ouais.
Donc,
c'est intéressant. Ouais. Vraiment intéressant.
Et puis voilà, puis il fait de l'argent avec ça aussi.
Est-ce que tu conseilles le livre?
Non! Attends, mais j'essaie de voir si j'ai d'autres choses. Je m'étais noté peut-être d'autres...
On n'a pas parlé de Myriam.
Ouais.
On n'a pas parlé de Myriam, qui est quand même... Pour Alain Ferrat, c'est comme le centre, c'est le moteur, c'est ce qui a déclenché
livre, dédié,
l'écriture.
Hein,
ouais. La mort. Mm. La mort par le cancer, tu vois, le lien, il se fait bien ici. De sa meilleure amie.
Et le déni, qui jusqu'à ses derniers moments dit « Oh non, je suis là pour me reposer, je m'en retourne chez moi la semaine prochaine. Ouais. »
Mais je pense que perdre une amie si jeune, ça doit être marquant, là. Mm. C'est sûr, là.
Et moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné peut-être dans le livre, c'est cette, malgré les extrêmes blessures relationnelles qu'il a vécues jeune, Alain a quand même finalement développé des liens forts avec certaines personnes qui étaient extrêmement positives dans sa vie, tu sais, puis je pense qu'il y a...
Tu penses à qui?
Ben, Mime et Virginie, en fait. Là.
Oui.
Edouard,
mais les blessures, c'est quoi le divorce puis Badreddine?
Ben, surtout le divorce. Là. Okay. Ben, oui, surtout le divorce, je dirais, puis la maladie.
Ce que j'allais dire, quand t'es jeune, là, que tu te fais rejeter, là, c'est normal.
Non,
c'est courant.
C'est plus les éléments familiaux, puis
ouais.
Comment ça peut te construire d'un point de vue relationnel, en fait. Sans dire que je parle par expérience, là, mais c'est difficile. Difficile parfois de faire confiance à une autre personne, puis de trouver des gens aussi qui avec qui on développe un lien sécure, vraiment. Parce que tu es habitué d'avoir des liens hésitants avec tes parents, hein, que c'est les premières personnes qu'on a dans notre vie. Donc, de trouver normal d'avoir une personne qui nous aime de manière, sans dire inconditionnelle, mais qui nous aime de manière stable, disons, que c'est pas tout le temps négocié, là, cet amour-là.
Ouais, pour qui on est, puis c'est ce que le roman termine comme ça, hein? Exactement.
Est-ce que tu m'aimes malgré ma folie un peu?
Est-ce que tu regrettes? Non, je ne regrette pas. Je sais qui j'ai épousé. Il dit un maudit paquet de troubles.
Ouais.
Bien résumé. Donc, tu vois, bravo, t'as bien. Mais ce que j'ai aimé de Myriam, moi, dans le roman, c'est qu'elle est toujours en train de rire, de rigoler, d'être légère. Elle est belle. Je l'imagine en train de tourner quelque part, de danser.
Ça se passe à Montréal, mais je l'imagine genre dans un appartement de Saint-Jean-Baptiste, genre avec des banderoles sur les hautes portes, tu sais, puis elle se promène en jeans avec, tu sais, l'air un peu libertin. Ben, pas libertin, mais... mon Dieu, pas libertin, je veux dire, mais libérée, peut-être plus. Là.
Elle est heureuse.
Ouais.
Elle a le bonheur facile.
C'est ça.
Puis là, bam!
La musique.
Arrive ça. Mais c'est vrai que Virginie puis Myriam, c'est ça, ont l'air heureuses. Puis apporter du bonheur, justement,
simple
à Alain.
Aussi.
Simple. Et... Ouais. Oui, simple.
Alain, lui, qui...
Ouais. Oui, c'est
tout,
ça.
Tout est une montagne tout le temps.
Moi, je vais taire le nom de la personne, mais j'ai passé. Lis le livre. Puis après, quelques 100 pages, je dis, j'en peux plus, là. Il se gratte trop, là. Il se gratte trop le bobo, là.
Ah.
Il n'en pouvait plus de la complexité de Alain qui se regarde aller. Puis qui...
Mais c'est parce que ça le confrontait à lui-même? Ou...
Non.
OK.
Je te dirai c'est qui
après. Trop fermé. Ah, ça, c'est le privilège d'enregistrer une émission. Des fois, j'écoute un autre podcast et les gens font cette même interaction-là.
Ah,
de
oui.
Je peux pas le dire au micro,
ah,
mais
oui.
Je vais te le dire après. Là,
je dis continue la lecture.
Ouais.
Mais non. C'est...
On a le droit de déposer. Hein,
peut-être les côtés négatifs. Tu disais que tu avais lu des critiques négatives.
Il y a des gens qui je me rappelle plus exactement du détail, mais que la narration, ça l'aurait pas plu du tout, que...
C'est tellement, tellement fun.
Ils trouvaient pas que c'était intéressant, ils trouvaient que le propos était pas intéressant, ils trouvaient que finalement, il y avait aucun message dans le livre, alors que finalement, tu sais, moi, je suis pas d'accord. Ben, sans dire qu'il y a un message, il faut genre une morale.
Non, mais t'apprends à connaître des personnages, tu apprends
oui,
à connaître...
Oui, puis il y a des richesses, là.
Oui, mais la lecture, c'est tu développes ton empathie... Tu n'as pas besoin d'avoir une morale ou un message à chaque fois que tu lis quelque chose, c'est que tu apprends à découvrir d'autres aspects de l'humain. C'est
ça. Les gens ont le droit de se tromper quand ils font une critique. Là,
quelqu'un qui a cette maladie-là.
Ben oui. Ben
moi, pis... j'en ai des personnes qui ont cette maladie-là dans mon entourage, puis je trouve qu'ils s'en sortent quand même bien.
Ben, puis je pense que c'est aussi, tu sais, je pense qu'il y a une espèce d'a priori productiviste, là, tu sais, il faut que ça serve à quelque chose, là, alors que l'art, c'est ça le but. C'est, ben, pas, c'est, évidemment que ça sert pas à rien, mais dans le sens que, comment dire, d'un point de vue peut-être capitaliste, tu seras pas plus productif au travail, mais comme être humain, comme dans le côté peut-être abstrait de la vie, puis dans ce qui est insaisissable, c'est là que ça nourrit, puis c'est l'âme. C'est l'âme que ça nourrit vraiment, tu sais. Puis ça, ben, je pense que...
Moi, ce que j'ai... Justement, ce qui nous apprend, ce roman-là, c'est le fils d'immigrant, première génération, comment il s'intègre au Québec, puis que... Il sacre, il m'a emmené, il y a un gros tabarnak qui arrive, c'est comme waouh!
Mais,
c'est ça. Lui, il se pose pas. Oui, il y a tout un passé égyptien, il y a tout mais il vit, ses racines sont. Ses feuilles sont ici, là, il grandit ici.
Il y a ce questionnement-là. Qu'est-ce que j'adopte ou non? Là,
oui, puis le questionnement identitaire est super intéressant, mais au final, ça reste profondément québécois.
Oui.
Avec une richesse incroyable. Donc, il y a pas. Ça, c'est de l'intégration et non pas de l'assimilation, là.
Tout à fait.
C'est génial, là. C'est ça, j'adore ça. Là.
Mais c'est tout le temps, je trouve que la génération qui me fascine souvent, c'est vraiment la deuxième, tu sais, dans ce rapport-là. Tu sais, rendu à la troisième, c'est presque déjà trop loin. Ils sont profondément intégrés dans leur pays d'accueil, mais quand ils ont vraiment ce lien-là avec le parent
à la maison,
qui, lui, est né ailleurs, tu sais, ouais. Et qui sont baignés dans une culture qui est parfois complètement différente de la leur, qu'il y a cette espèce de quête et de confusion parfois identitaire là, qui est fascinante, je trouve.
Mais je suis en train de...
Ni toi ni moi ne parlons d'une posture où on l'a vécu. Là,
non, non, aussi, mais je suis en train d'enseigner présentement le livre « Jacaranda » de Gaël Faye, c'est un français rwandais.
OK.
Donc, il y a moitié-moitié. Puis, ça raconte...
Il vit en France?
Il vit au Rwanda maintenant.
OK.
Il a décidé, c'est un rappeur, slammeur. Puis là, il vit au Rwanda. Puis son roman raconte le génocide, mais après.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui se passe sur 5 générations? C'est tellement intéressant. Là.
Il est Houthi ou il est... il est Hutu ou il est Tutsi?
Bon, ça, c'est une des réflexions les plus intéressantes. Parce que les Rwandais eux-mêmes, avant un certain... Avant... ils étaient Rwandais.
Ouais.
Ils étaient Rwandais. C'est les Belges qui sont arrivés, mesurer leur nez et tout, qui ont décidé que telle personne, par son physique, était un Tutsi, puis telle autre, par son physique, était...
OK, je pensais que c'était plus complexe que ça.
Ben non.
Oh, mon
Dieu, non, c'est politique au bout. Et on dit, OK, les Tutsis, puis ils vont avoir... pour garder leur pouvoir, les Belges, leur ont donné des vaches, leur ont donné une espèce de pouvoir, puis ils ont mis en place des carnets d'identité. Le chanteur Corneille, que tu connais. Mmh. Mais lui, sa mère est Hutu, puis son père est Tutsi. Il dit, moi, je suis un...
un toutou?
Non, c'est ça. Il dit, moi, je suis quoi?
Un Hutu.
C'est ça. Il dit, moi, je suis un métis.
Oui.
Mais mon père, il s'est fait naturaliser Hutu, m'en est pour avoir des meilleurs emplois. Mais,
lui,
j'ai jamais su.
Il aurait été tué.
Non, il a vu toute sa famille se faire fusiller devant lui.
Mais c'est caché.
C'est sauvé derrière... Ouais. C'est
ça.
Juste à temps, là.
Oui, exactement.
Non, c'est épouvantable. Ça,
c'est horrible.
Puis il y a sorti un livre qui s'appelle La mélodie du pardon, qui est super intéressant, que j'ai lu en parallèle du roman, là. Mais pour en revenir à... Lui, il veut pas retourner au Rwanda, là. Il habitait au Québec, puis il veut...
Pas ton rappeur, là.
Non, mon rappeur, lui, il est retourné. Donc, il y a beaucoup... En tout cas, bref, ouais. On est dans le sujet, là, mais tout ça pour dire que l'identité... C'est des constructions.
bien sûr.
Si on se fait toutes des constructions. Un Rwandais, c'est l'exemple parfait. À un moment donné, on te dit que tu es telle chose. OK, je suis telle chose.
Et c'est adopté, c'est ça.
Puis tu sais, on s'imagine pas qu'au Québec, il pourrait avoir des frictions de ce genre, mais il pourrait vraiment en avoir.
Tu veux dire qu'il serait importé d'ailleurs?
Ou non, juste entre nous.
Par rapport à...
Ben, par rapport
est-ce
à la
qu'on
politique?
Est vraiment québécois ou non?
Oui.
Ben, on entend sans arrêt.
Ou fédéraliste
Le fameux pur lénisme.
Oui, et tout. Donc, c'est. Non, c'est. Faut que c'est intéressant, mais en même temps effrayant. Effrayant.
Pas ou contre l'indépendance. Non, non. Ah, c'est une blague. Y a-tu d'autres choses?
Ah, ben, allez voir le film.
L'appel au sens.
T'as senti ça?
Oui.
T'as senti des odeurs, des couleurs dans le roman?
Quand il décrit ses angoisses particulièrement. Là,
ah oui, tu te
j'ai mal à tel endroit, je ressens telle chose, j'ai un goût métallique dans la bouche, le Xanax commence à goûter.
Moi, c'est drôle parce que souvent, quand je lis des romans, je sais que c'est présent, puis je m'en rends pas compte.
Oh, mais moi aussi, il a fallu que je oui.
Il y a ce que je sais de toi.
Ouais.
Éric Jacquot.
Oui.
Toutes les odeurs sont là, quand il débarque c'est au vrai. Caire et tout c'est et vrai. Tout, mais ça, il a fallu que ça m'a pris la deuxième lecture pour le voir. On dirait que je m'attends plus à qui parle comment, style d'écriture,
le scénario.
Oui, on dirait que la description reste un peu moins. C'est spécial que tu me dises ça parce que vraiment, là, je suis passée à côté. Mais écoute, ça me rend triste. Sinon, c'est ça, Fred.
Non, mais j'essaie de voir si j'ai d'autres choses intelligentes à dire. Toi, il faut peut-être que tu t'en ailles.
Oui, éventuellement. Oui, oui. Oui. Moi, j'avais l'humour, l'amitié, les structures narratives, la mort.
Le rapport au temps. On a-tu parlé le rapport au temps?
Ben,
je pense que oui.
Oui, t'en as parlé au début quand même.
Que le passé est toujours présent dans le présent.
Oui, notre petit.
Le futur, un peu, mais.
Notre énergie, pas notre énergie, mais notre prise de conscience du quantique dans le roman. Édouard, maman, je pense qu'on pourrait finir sur Édouard.
Il est passif-agressif.
Non, Édouard est merveilleux.
Sur ce,
bonne lecture à tous.
Oui, garochez-vous, lisez-le.
Ben oui, mais là, vous savez toute l'histoire.
Essayez de. Ben, quand même, c'est bon pareil. C'est pour ça qu'on lit deux fois. Hein. On a assez déjà l'histoire quand on lit la deuxième fois.
Ouais.
Prenez plus soin de votre livre que moi. Parce que moi, mon livre, il a vraiment, vraiment eu mal. Là. Vous pouvez pas le voir, mais il est profondément brisé. Faites attention à vos livres, traitez-les avec respect. Mais bon, lisez-les. Avant tout, lisez-les, puis après ça, traitez-les avec respect. Sur ce,
bye bye.
Bye.